Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
VS à votre santé, bonjour et bienvenue. Et vous savez, le vendredi, vous avez soit le plaisir, le bonheur, ou soit c'est la catastrophe, il y a le docteur Delabo. C'est tout l'un ou tout l'autre. Comment ça, docteur Delabo ?
Bah, ça allait bien avant que tu dises des méchancetés sur moi.
Non, vous êtes en train de faire le, je sais pas quoi, avec votre, quoi, avec votre micro là.
Mais non, c'est pas ça, je savais pas si c'était le bon micro.
Qu'est-ce que vous cherchez là maintenant ? Ah, votre bouteille d'eau d'Evian. Bon, comment ça va, docteur Delabo ?
Je ne fais pas provision d'eau la nuit, moi, je ne peux pas.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je dors la nuit en ce moment.
Vous dormez la nuit ? Bah, c'est fait pour ça la nuit d'un autre côté, docteur Delabo.
Habituellement, oui.
Oui.
Sauf quand je fais la Java. Alors, tu me proposes de faire la Java ce soir pour nos auditeurs. D'accord, Philippe. Ok. Nadia sera là ? Ah, je vais peut-être venir alors. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est est-ce qu'il y a des bus qui me reconduisent jusqu'à chez moi ?
D'abord, on vous reconduira ce soir jusqu'à chez vous.
Non,
vous serez. Et vous serez nourris.
Oh.
En plus, vous serez nourri, parce qu'on a besoin de vous pour manger avec nous ce soir.
Ah oui.
Mais vous m'avez demandé.
Pour assister à toutes vos agapes. Ben oui,
oui, on va agaper.
Mais j'ai un autre problème qu'il faut que je résolve. Alors, parce que c'est pas facile. Je peux pas être partout et je ne veux pas qu'on me coupe en deux. Je
vous ramènera. Nadia El Bouga sera ravie de manger avec vous. L'imam Abdelali sera super content de vous avoir. Il y aura Nabil de la radio. Vous pourrez surveiller la qualité nutritionnelle de tous ces gens qui mangent n'importe comment le soir. Vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous pourrez surveiller tout ça et donner tous vos conseils à ceux qui seront là.
J'en profite pour dire à Mohamed que j'ai vu tout à l'heure dans le bus, un des chauffeurs de bus qui me conduit jusqu'ici, mais que tout va bien et que je suis ravi qu'il m'ait conduit comme tous ses copains. Et puis je dis à Driss, que j'ai vu aussi, puisque j'ai vu un autre chauffeur de bus,
que
j'ai vu les radios de son fils, et il faut qu'il continue les examens, mais a priori, il y a rien qui soit menaçant, donc il s'inquiète pas, mais qu'il fasse les examens qu'on lui a conseillé de faire.
Eh bien, incroyable, vous, une vie incroyable dans le bus, docteur Delabo.
Ah, je connais tout le monde. tous les chauffeurs musulmans me connaissent, il n'y en a pas.
Le seul docteur du monde qui se fait déposer devant la radio, c'est un nouvel arrêt qu'ils ont créé.
Là, j'ai eu du succès la semaine dernière, c'était Driss. Mohamed, il n'a pas pu aujourd'hui parce que son bus était plein, mais là, il n'y avait personne. Mais sinon, il l'aurait fait, je sentais qu'il l'aurait volontiers fait.
Bon, docteur Delabo, vous restez avec nous ce soir, c'est fait. Bon, on vous retrouvera de 20h
si
à 20h.
Oui, d'accord. Parce que je ne suis pas certain.
Non, mais ça va être vite réglé, votre histoire. Ouais, vous êtes là de 20h à 21h.
Si tu le veux, t'as rien à dire. Hein.
Et vous restez manger avec nous.
Voilà. Bah, facile.
Bien, docteur Delabo, on commence par votre semaine santé. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment perdre la culotte de cheval à quelques semaines de l'été. Et on verra comment se nourrir efficacement.
Vous savez que le ramadan, c'est une bonne occasion pour perdre la culotte de cheval ? Ah, j'en vois pas mal d'entre vous, mesdames et demoiselles, qui dressent l'oreille et qui vont me poser un tas de questions. Là,
pourquoi vous regardez Tariq quand vous dites ça ?
Oui.
Tariq a un petit...
Non, je regarde Tariq parce qu'il se marre.
Il a un petit ventrounet. Mais il n'a pas de culotte de cheval.
Non. Parce que les hommes n'ont pas de culotte de cheval. Ça n'existe pas chez les hommes. Pratiquement.
Les hommes
ont du bide, mais ils ont. Alors,
il y en a qui ont des petites formes de bouteilles de Perrier.
La génération ne sait plus manger.
Voilà. Docteur Delabo, on y va. Connaître son poids avec l'indice de masse corporelle, le fameux IMC.
Je vous ai déjà expliqué qu'essayer de connaître votre poids avec cet indice ou avec un autre, parce qu'il y en a d'autres, ça vous donnera strictement rien d'utile pour la bonne gestion de votre santé et de votre physique, pour la bonne raison qu'ils sont inexacts l'un et l'autre, et qu'ils sont très, très faux. On ne doit jamais chercher en plus à savoir quel est son poids idéal, mais connaître tous les paramètres qui vont vous permettre d'être en parfait équilibre corporel et métabolique, grâce au calcul du morphotype. Le morphotype que j'ai mis au point vous indiquera quelles sont vos formes et votre poids maximum et minimum, entre lesquels vous devez vous trouver pour être en bonne santé et au top de votre silhouette. Ça n'est donc pas obligé de peser tel ou tel poids, c'est une idiotie de croire qu'il faut absolument arriver à un poids X.
Mais pourtant, les gens, quand ils entament une démarche de perte de poids, ils se disent, tiens, mon objectif, c'est aller 78 kilos ou quelque chose comme ça.
Sauf les gens qui viennent me consulter et qui comprennent très vite, parce que je le leur explique, qu'on va faire beaucoup mieux que ça et qu'on va leur donner une silhouette de rêve. Et c'est quand même plus agréable d'avoir une silhouette magnifique et d'être en parfaite santé que de peser tel ou tel poids, ce qui ne signifie rien.
Ouais, vous pouvez un bel exemple là-bas.
Bah, on peut peser.
Il y a du mal à comprendre que c'est pas parce qu'on maigrit pas tout d'un coup que c'est pas efficace.
Ah non, mais ça j'ai compris moi maintenant. Là, je suis bien. Je perds du tour de taille, de tour de. Je suis content là, moi.
Et ben voilà, c'est ce
qui se passe bien.
Donc, tu as compris la chrono, mon ami.
Je suis pas en chrono, moi. Je suis en autre chose.
Ah, si t'es en autre chose, c'est pas parfait. Alors, dommage.
Dommage. J'ai un autre délire.
Quand tu seras dans un état épouvantable, je te récupérerai comme la plupart des autres.
Non, franchement, je vais très bien. Franchement, je vais super bien. Je fais du sport tous les jours. Oui, j'ai un coach. Ouais, j'ai un coach sportif, nutri, tout va bien.
Oh mon Dieu.
Mardi, transpiration excessive, quelle solution?
Ça c'est vrai, j'aimerais savoir moi.
Il n'y a pas de solution miracle, mais le retour à des paramètres morphologiques un peu normaux. Dans 80% des cas, il s'agit tout simplement de perte du gras. C'est en effet l'accumulation diffuse de ce gras sous la peau qui empêche la perspiration naturelle de l'organisme et puis l'oblige à transpirer beaucoup plus que le normal dès que la température de l'organisme monte trop. Avis aux amateurs de sucre, c'est la même chose chez les gens qui mangent trop de sucre lent ou trop de sucre rapide. C'est une catastrophe, on sue comme un bœuf dès qu'on est au chaud. Conclusion, mangez chrono, vous ne risquerez plus de transpirer trop. Il n'y a pas une personne qui suit la chrono correctement et qui transpire anormalement. J'en profite pour vous dire que pendant le ramadan, exposez-vous le moins possible au soleil pour éviter de transpirer et de perdre beaucoup trop vite votre provision d'eau que, si vous m'avez sagement écouté, vous avez accumulée pendant la rupture du jeûne.
C'est quoi la différence, docteur Delabon, entre la perspiration et la transpiration?
La perspiration, c'est le passage naturel de l'eau à travers tes pores. Si tu touches ta peau, tout de suite, elle est légèrement humide. Touche ton bras, tu vas t'apercevoir, il est légèrement humide. C'est la perspiration.
Bon, très légèrement alors. Hein.
Je suis pas
humide, non.
Ouais. Ah oui, mais non, mais de toute façon, il fait frais ici.
Ah non, je suis pas humide. Voyez, donc,
mais à l'extérieur, ta peau deviendra légèrement humide et ça n'est absolument pas gênant. La transpiration, c'est l'exagération. En fait, c'est le climatiseur autonome que nous avons tous qui se met à fonctionner au maximum pour essayer de gérer trop de chaleur dans le corps.
Mercredi, il serait faux de penser qu'il y a plus d'allergies au printemps qu'en hiver.
Non, bon là, ça c'est complètement débile. Ça, en plus, c'est idiot parce qu'on compare deux formes d'allergies. Il y a beaucoup plus d'allergies saisonnières au printemps que dans les autres saisons. C'est tout. Il y a des allergies qui durent toute l'année, bien évidemment. Si on est allergique aux acariens, vous allez avoir vos phénomènes d'allergie aux acariens tout le temps. Si vous êtes allergique à un aliment, il n'y a pas de saison. Mais il y a une saison précise pour les pollens. Et pour tout ce que les arbres ou les fleurs ou les plantes, toutes les plantes mettent dans l'atmosphère. Et des gens, malheureusement, sont allergiques au printemps, alors plus ou moins tôt dans la saison du printemps, suivant la plante qui va envoyer des pollens.
Jeudi, congélation du nerf de la faim pour lutter contre l'obésité. Qu'est-ce que c'est, ça?
Oh, ben ça, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment fait des bonds de 4 mètres. Parce que c'est possible. On connaît les transmetteurs qui vont transmettre l'idée de faim. Et on a des nerfs très précis, le nerf olfactif notamment. Alors, on va vous bousiller un nerf pour pas que vous ayez faim. Mais c'est stupide. La faim, c'est un message absolument indispensable. Les gens qui se croient très malins d'avoir inventé ça oublient que les grands obèses n'ont jamais faim. Ah ben docteur, j'ai jamais faim. Ben évidemment, ils ont jamais faim puisqu'ils mangent trop. Mais vous leur coupez le nerf qui est de la faim, ça changera strictement rien au fait qu'ils bouffent n'importe quoi, n'importe quand, parce que dans leur tête, il est écrit qu'il faut qu'ils bouffent. Point final. Alors on va pas leur couper le cou pour qu'ils arrêtent de manger. C'est stupide comme approche intellectuelle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens éventuellement que dans des cas particuliers où les gens meurent de faim toute la journée, à tort. Mais c'est rarissime. La plupart des grands obèses, figure-toi, n'ont pas faim.
Et c'est quoi le nerf de la faim?
Les gens qui ont faim toute la journée ont faim parce qu'ils ne mangent pas l'aliment qu'il faudrait. Si on mange l'aliment qu'il faudrait dans la quantité nécessaire et suffisante, on n'aura plus faim et on retrouvera un appétit qui va permettre de réguler les apports nutritionnels quotidiens. Donc, laissez vos nerfs tranquilles, n'y touchez pas, mangez correctement et tout ira bien.
D'accord, mais qu'est-ce que vous appelez le nerf de la faim?
Ben, on sait que le nerf olfactif, par exemple, transmet les odeurs. On a alors, si on te rend aveugle, tu vas perdre la vision des aliments. Si on te coupe le nerf olfactif, tu vas plus les sentir. Si on te coupe le nerf lingual, tu vas plus avoir le goût dans la bouche. Enfin, bref, tout ça, tous ces faisceaux se réunissent, dans un centre, qui gère la faim, mais il faut surtout pas y toucher. C'est complètement idiot. C'est dangereux et c'est inutile.
Vendredi, de la myrtille pour faire baisser le diabète.
Ouais, alors là, quelle que soit l'explication vaseuse qu'on vous donne, c'est vraiment un conseil à ne pas suivre, car la myrtille, c'est un fruit et elle est riche en fructose. Donc, faut pas raconter n'importe quoi. La myrtille a jamais soigné le diabète. C'est stupide d'aller raconter ça. C'est un fruit auquel on attribue des vertus antidiabétiques, à tort. Mais en revanche, la myrtille est excellente pour le bon fonctionnement de la rétine. Donc, qu'on s'occupe donc des vertus réelles et utiles de la myrtille et d'autres fruits qui sont riches en certains éléments. La couleur de la myrtille est liée à certaines vitamines bien précises. Mais dans un cas comme un autre, faire de la myrtille ou d'autres fruits un produit miracle, ce n'est pas une bonne idée, car en abuser serait, dans un cas comme dans l'autre, dangereux pour la santé et particulièrement pour un diabète éventuel.
On dit que la myrtille, c'est bon pour les yeux.
Oui, c'est bon, c'est bien. C'est pas on dit que, on sait que c'est bien. Mais parce que ça contient des vitamines riches, ça contient du rétinol. Donc, ça va aider la vue, mais ça va pas guérir une rétinite aiguë, hein, malheureusement. Alors, ça, c'est intéressant ce que Philippe vient de dire, parce que j'en profite pour vous expliquer quelque chose de précis. Ça n'est pas parce que un aliment ou une plante ou quelque chose est utile qu'il faut croire que ça va vous guérir, malheureusement. Ça n'est pas parce que c'est utile pour la santé que ça va malheureusement guérir des pathologies.
Donc ça il faut pas s'en gaver, ça sert à rien.
Mais non, ça peut être dangereux. L'hypervitaminosa, c'est mortel. L'hypervitaminose A, c'est mortel. On a eu des cas de mort d'ingénieurs qui étaient allés à l'Antarctique et qui avaient bouffé du foie d'ours et qui en sont morts parce que le taux de vitamine A était énorme et l'hypervitaminose A, c'est mortel. L'hypervitaminose D est mortel aussi. L'hypervitaminose K est mortel aussi.
Enfin, donc, les gens ont tendance à se charger en vitamine C.
Je vous flanque exprès un peu la trouille à tous ceux qui sont quelquefois suivis par des coachs qui n'y connaissent rien et qui leur donnent des conseils imbéciles. Il faut faire attention, on ne peut pas manger ou boire n'importe quoi sans risque. Et on ne peut pas se gaver d'un aliment ou pire encore d'une vitamine sans courir des risques. Il faut regarder. Alors, comment on fait? On fait tout simplement un bilan biologique, on regarde. Ça, c'est l'apanage des médecins et la chance que nous avons. C'est qu'on fait un bilan biologique, on regarde où il y en a trop, où il y en a pas assez, où il y en a assez. Si on a assez, on n'y touche pas. Si on a trop, on en enlève. Si on a pas assez, on en remet.
Et on termine avec samedi, docteur Delabeau, le sucre raffiné, moins bon pour la santé.
Ouais, soyez rassurés, le sucre raffiné, il n'est pas moins bon pour la santé que n'importe quel autre sucre. Ils sont tous, sans exception, mauvais pour la santé si on en mange trop. Donc vous fatiguez pas, c'est pas je mange tel ou tel sucre et je peux en manger autant que je veux. Ça, mes enfants, c'est pas la peine d'y penser, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on les ajoute à des aliments pour en augmenter
pour que ce soit meilleur, allez.
Oui. Non, pour que ça ait un goût plus sucré, ce qui pousse à en manger plus. Ce que font très malheureusement la plupart des industries agroalimentaires. Conclusion. Ne vous gavez surtout pas de sucre la nuit pendant le ramadan. C'est une très mauvaise idée.
Alors, vous dites ça, mais maintenant, on a dit, alors, les messages qui ont circulé, c'est-à-dire, bon, le sucre blanc, c'est l'ennemi. Préférez le sucre roux au sucre blanc.
C'est pareil. Ça n'a aucun sens d'aller raconter ça. Le fructose, c'est du fructose. Le glucose, c'est du glucose. Le cellulose, c'est de la cellulose, etc., etc.
Sirop d'agave.
Mais c'est pareil, c'est un sucre. Des sucres. À partir du moment où tu sucres trop, si tu te vois un litre de sirop d'agave, eh ben c'est comme si tu bouffes un kilo de sucre. Donc c'est la même chose. Ce qui compte, et ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce que en fait, quand on croit que certains sucres vont être moins mauvais que d'autres, par exemple le miel. Le miel, mais docteur, moi je prends que du miel parce qu'avec mon diabète, je me suis dit, mais mon pauvre ami, le miel c'est encore plus sucré, c'est le plus sucré de tous les sucres.
Oui, mais on dit que c'est un bon sucre.
Mais c'est un bon sucre, ça veut rien dire. Un sucre en excès, c'est pas un bon sucre.
Mais je vous parle pas d'excès. Pourquoi vous parlez toujours d'excès? Je vous dis, docteur Delabeau, si vous remplacez le sucre que vous mettez normalement par du miel, par exemple.
Le miel n'est pas un bon sucre. Le miel a la particularité de contenir des éléments antiseptiques extrêmement puissants et des conservateurs extrêmement puissants qui sont issus de la bave des abeilles. Parce que le miel va être conservé pendant un hiver complet, il peut être conservé pendant des mois et des mois, grâce à la façon dont les abeilles le déposent et ainsi instillent dedans leur bave. Oui. C'est la bave d'abeille qui fait que le miel est extrêmement utile au point de vue santé. Tu mets du miel sur une plaie, tu la cicatrises.
D'accord. Mais si on remplace le sucre blanc par du miel, est-ce que c'est mieux pour la santé ou
non,
pas?
Non, ça n'a rien, ça ne changera rien si on en mange trop. Si tu manges pas trop de sucre, ça va aller. Bon, il est évident que certains sucres sont de meilleure qualité nutritionnelle. Il faut pas manger trop de fructose. Dans le miel, c'est un parfait équilibre entre les trois sucres. Le glucose, le fructose, et je me souviens jamais du troisième.
Saccharose.
Et le saccharose. Merci. Oh, il est formidable. Donc ça, c'est un bon équilibre. Il est évident que manger que du saccharose, c'est très mauvais, et que manger que du fructose est encore pire. Et manger, a priori, le mieux toléré par l'organisme, c'est le glucose. Sauf que le glucose étant hyper sucrant, il va aggraver terriblement les diabètes. Donc faut faire attention, si tu veux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est raison garder. Manger, moi je mange du miel une fois par jour, j'adore ça en plus, et je sens que mon corps aime beaucoup aussi, parce qu'une grosse cuillère à soupe de miel au moment du goûter, là où, loin des autres repas, pour ne pas m'obliger mon organisme à me fabriquer du cholestérol, tu sais que de ce point de vue-là, moi je suis vachement fragile, eh bien je sais qu'il faut pas que je mange du miel à la fin d'un repas. Alors tu vas me dire, quand tu fais la fête, tu fais quoi? Ben je mange pas de dessert, ou j'en mange vraiment rarement, parce que j'ai pas envie de m'esquinter. C'est pas un hasard si à 76 ans je grimpe les escalators en courant, mon pote.
Ah non, je sais, c'est pas un hasard, docteur Delabo, et que vous grimpez au rideau bien pire que ça d'ailleurs.
Ma vie privée ne te regarde
non,
pas.
Non, je sais, mais vous la devez à votre public qui vous aime. Docteur Delabo, vous nous direz dans un instant comment perdre la culotte de cheval. Et si vous avez des questions à poser au doc, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.
Sport.
Docteur Delaboune, vous avez promis de nous donner vos trucs pour perdre la culotte de cheval. Vous dites que le mois de Ramadan, c'est un bon mois pour perdre la culotte de cheval.
Oui, j'ai dit ça tout à l'heure, je maintiens, et je déteste qu'on parle de trucs ou astuces. Il n'y a pas de trucs ou d'astuces, il y a de la médecine qu'on applique au quotidien et qu'on applique correctement. De la médecine nutritionnelle, bon, on n'est pas beaucoup à la connaître, ça c'est exact, mais c'est pas grave, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, comme dit le dicton populaire.
Bon, c'est quoi la culotte de cheval? Ça commence où et ça termine où?
Bah, la culotte de cheval, ça englobe les hanches. On en voit très très rarement chez les hommes, mais la plupart du temps chez les femmes.
Mmh.
Alors ça peut être chez les hommes quand ils ont une nourriture qui est beaucoup trop riche en sucre lent et qu'ils compensent. Alors il y a énormément d'efforts. C'est en général, c'est pas rare, hein, Tariq, tout à l'heure.
Ah non, c'est pas bien ça, ce que vous faites. Alors mais, non, on ne donne pas de prénom.
La chrononutrition.
Non. On ne montre pas son camarade.
Mais ouais. C'est pas possible aujourd'hui. J'arrive pas à placer une bordel. Tu vas te taire, oui. Ah mais c'est quelque chose. La chrononutrition du sport comporte une quantité supérieure à la moyenne des autres en apport de protéines animales pour aider le corps à fabriquer plus de muscles. C'est pas difficile à comprendre. On ne peut fabriquer des muscles qu'avec des protéines animales. On ne fabriquera pas de muscles avec uniquement des protéines végétales. C'est pas possible. C'est quasiment impossible. On va fabriquer des muscles, mais on va en même temps obligatoirement amener des provisions au niveau des hanches et au niveau du tour de taille. Le corps, qui est l'esprit, nous avons un cerveau primitif qui va comprendre que le corps, il est là pour survivre. Si on lui envoie un maxi paquet de sucre lent sous forme de céréales, les pâtes étant des céréales et tous les autres étant des céréales, il va forcément les stocker au niveau de la culotte de cheval et au niveau du ventre.
Bon, alors ça veut dire que ça, c'est où précisément la culotte de cheval?
La culotte de cheval, c'est ce qui se passe au niveau des cuisses. C'est-à-dire que on élargit. D'ailleurs, la culotte de cheval donne souvent l'impression chez les femmes qu'elles ont des fesses plates. C'est pas qu'elles ont des fesses plates, c'est que leurs fesses sont dissimulées par le tour de hanche qui s'arrondit de plus en plus. Donc, on voit plus les fesses. Et c'est amusant parce que quand elle m'écoute, et Dieu merci, elle m'écoute dans la plupart des cas. C'est amusant, on voit réapparaître la rondeur normale des fesses et elle retrouve une silhouette très élégante, alors qu'elle me dise la plupart du temps, bon, docteur, vous avez vu, j'ai vraiment des fesses plates. Mais non, madame, vous n'avez pas des fesses plates, vous avez tout caché avec des hanches trop importantes.
Ce qui revient à la question, si vous me permettez de la poser, docteur Delabo, mais à la question de c'est savoir comment maigrir du bas, ouais, sans maigrir du haut, puisqu'il y a des femmes qui sont pas vraiment en surpoids d'ailleurs, qui ont une culotte de cheval et qui se demandent comment perdre précisément de cet endroit-là.
c'est pas tellement perdre de cet endroit-là, c'est faire en sorte que la silhouette se réharmonise. Si ça se trouve, attention, j'ai déjà vu pas mal de fois des femmes qui me disaient « j'ai une culotte de cheval », qui avait d'ailleurs des rondeurs, mais qui en fait étaient beaucoup trop maigres du haut, si bien que la silhouette paraissait énorme du bas. Alors, je me souviens, ça m'arrive encore assez souvent, de dire à une dame « mais non, madame, vous n'êtes pas grosse du bas, vous êtes maigre du haut », ce qui n'a rien à voir.
D'accord.
Vous avez...
donc
très jolie
mal proportionné. Donc,
mais
en
oui,
fait,
oui, vous croyez que vous avez trop de hanches, trop de fesses, mais je suis désolé, vous n'avez pas assez de poitrine, pas assez de seins. Ça n'a rien à voir. Mmh. Il faut rééquilibrer le corps et c'est très facile à faire. Il suffit pour ça de réorganiser l'alimentation de chaque personne, mais il faut tenir compte du terrain auquel on a affaire, du passé. Si quelqu'un qui, par exemple, fait du sport ou a commencé un programme de sport depuis 3 mois et qui est en fond dedans, je ne vais pas lui asséner des vérités premières sans doucement et gentiment lui dire « Attendez, on va modifier progressivement votre alimentation pour la ramener aux valeurs qui vont vous donner une silhouette parfaite. »
Docteur Labo, donc vous dites que les aliments, en fonction de leur famille, à différents endroits du corps. Il y a des aliments qui vont dans le visage, d'autres qui vont sur le buste et d'autres qui vont au niveau de la culotte de cheval. Quels sont les aliments qui vont directement dans la culotte de cheval?
Attention, tu oublies un des deux paramètres. Il y a deux paramètres. Il y a la nature de l'aliment et le moment où on va le manger. On met de préférence dans la poitrine tous les aliments qu'on mange le matin. On met de préférence dans les fesses et dans les hanches tous les aliments qu'on mange le soir. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, quand vous vous gavez avant d'aller vous coucher, au lieu de manger énormément le matin et dans la journée, en dehors du ramadan bien entendu, ou quand pendant le ramadan vous vous gavez avant d'aller vous coucher et que vous ne mangez rien avant de recommencer le jeûne, vous flanquez tout par terre et vous terminez votre période du ramadan en mauvais état.
Donc, information utile, la culotte de cheval, c'est le repas du soir.
C'est surtout le repas du soir.
D'accord. Donc c'est ça, donc sur celui-là où il faut travailler.
Et on aggrave les choses suivant les aliments qu'on va manger. Le pire du pire, c'est de manger des pâtes ou de la semoule ou du riz le soir.
De pain.
Ou du pain. Oui. Enfin, toutes les céréales et les herbacées. Le riz n'est pas une céréale, hein, c'est une herbacée. Mais aller se gaver de quinoa, de riz.
J'en mange pas, moi, le
ou
soir.
Ou de céréales le soir va aggraver les choses. Non, mais t'as pas, j'entends une voix qui me dit j'en mange pas le soir. Mais t'en manges pas beaucoup, de toute façon. Ton problème
j'en mange
n'est
pas beaucoup,
pas...
mais je mange pas de pâtes le soir, moi.
C'est
je mange pas
bien.
De féculents le soir.
Tu manges?
Je mange pas de féculents le soir.
Bon, c'est bien. C'est déjà ça.
Ah, bon.
Ça a limité les dégâts.
Ah oui, non, mais, t'inquiète pas.
Il me fait rire.
Non, mais le midi, je mange que 100 grammes de féculents, attention. Et j'ai un pèse-aliment et je prends que 100 grammes de
féculents. Et tu manges quoi d'autre, Tariq, le midi?
Ben, je prends des légumes à volonté, 100 grammes de féculents, et je prends œufs ou poisson ou poulet.
Combien d'œufs, Tariq?
3.
Et tu mesures combien?
1m82.
Ouais. Tu sais quelle est la quantité d'œufs, normalement, pour toi?
Non, je sais pas.
C'est 6.
6?
Bah oui.
Mais alors, si j'en prends 3 le midi et 3 le soir,
non,
ça fait 6?
Non, surtout pas.
Alors, ah, faut que j'en tape 6 le midi comme ça?
Oui. Justement, l'erreur qu'on... Alors ça, c'est intéressant. Parce que sans le vouloir, Tari vient nous replonger dans un problème évident. Il ne faut pas croire que chaque repas doit être identique à l'autre. Surtout pas. Parce que chaque aliment a sa place dans l'organisation quotidienne de la nutrition. C'est très important. C'est extrêmement important parce que c'est le matin qu'on doit manger les gras saturés, le midi qu'on doit manger les protéines lourdes et le soir qu'on mange léger. C'est-à-dire qu'on mange les aliments hautement digestibles.
Alors, on revient à notre culotte de cheval, oui. Docteur Delabo. Souvent, oui. Il y a des familles de culottes de cheval et souvent, quand on voit la mère, on voit la fille. Et
bien
on dit,
sûr.
Et on dit de la culotte de cheval qu'elle est héréditaire.
Pardon, mais ça n'a rien d'héréditaire. Si maman mange mal et que mamie mange mal, je mange mal et tout le monde mange mal dans les familles. Ça m'amuse énormément. Je prends une des personnes d'une famille. Ça peut être la mère, la grand-mère ou la fille ou la petite-fille. C'est très drôle. Il y en a une qui vient me voir et qui me dit « Ce que tu viens de me dire, nous sommes génétiquement très gros. » J'ai dit « Bah écoutez ma cocotte, on va commencer par s'occuper de vous. On va vous aider à manger et on verra après. » Et après, je vois des bouts de toute la famille qui me dit « Comment vous avez fait pour lui faire perdre sa culotte de cheval alors qu'on en a toujours tous eu ?» Et je leur réponds « Parce que vous avez toujours mal bouffé les uns et les autres et que je vous apprends enfin à manger correctement. »
Bien. Donc,
ça n'a rien de génétique. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous tous et vous toutes. Il n'y a absolument rien de génétique dans votre silhouette. La carrosserie, c'est vous. Le châssis, c'est papa et maman, c'est-à-dire votre ossature, votre squelette, mais la carrosserie, c'est vous et ça n'est que vous.
Donc, moralité, docteur Delabo, pour combattre une culotte de cheval, qu'est-ce qu'on fait?
On mange correctement.
Merci. Et on mange quoi? Et on mange quoi le soir?
On mange ce qu'il faut quand il faut.
Bon, vous êtes bien, vous êtes parfait.
il lève les yeux au ciel en disant, mais c'est pas vrai. On doit manger. On commence pas par dire ce qu'il faut manger le soir, parce que c'est une erreur. On doit commencer par le matin. toute la journée va dépendre du matin. Si on mange très bien le matin, il y a très peu de chances pour qu'on fasse des bêtises après. On commence le matin par manger une quantité de fromage qui va correspondre à vos besoins personnels. Et dans le nouveau bouquin que je viens de sortir, dans la nouvelle chrononutrition, on augmente les quantités de fromage et de pain autant qu'il le faudra pour ne pas avoir faim pendant 5 à 7 heures suivant la durée de votre matinée. On accompagne ce fromage avec la moitié de pain et on peut ajouter, si on veut, des œufs si ça fait plaisir. Mais on n'a pas le droit de remplacer par. On peut ajouter des œufs le matin. Le midi, on va manger une quantité de viande qui va permettre de ne pas avoir faim pendant au moins 5 heures. Sachez que vous pouvez vous avaler 1 kilo de pâtes le midi. Vous aurez faim 2h30 après, même si vous en mangez 1 kilo. Simplement, vous en aurez stocké un bon paquet au niveau du ventre, parce que le midi, ça va plutôt dans le ventre. Donc, ne vous gavez pas de sucre lent le midi, ça ne sert à rien. Ce que Tariq a très bien compris, puisqu'il en mange pas trop. L'ennui, c'est que si vous remplacez les féculents par des légumes, ça va être encore pire, et c'est là que vous vous collez une culotte de cheval épouvantable, parce que les légumes, ça va plus dans le bas que dans le haut.
Pourquoi ?
Parce que les légumes sont plus générateurs d'eau. Les sucres lents vont donner du gras et les légumes vont donner de la flotte. Les légumes, on le sait très bien, l'exagération des légumes, vous savez très bien pourquoi je vous dis de boire en abondance des potages et de la chorba pendant le ramadan pour bloquer de l'eau et pourquoi je vous dis que dès que le ramadan est terminé, vous êtes prié d'arrêter de prendre des chorbas n'importe
où. Donc, légumes à volonté, c'est pas la bonne idée.
C'est pas une bonne idée du tout. Quelle que soit l'heure à laquelle on va les manger. Le seul moment où on peut manger des légumes sans que ça provoque de dégâts, c'est le petit déjeuner.
Je connaissais quelqu'un, mais il n'existe plus, mais c'était un vieux docteur qui disait « Si tu manges comme un hippopotame, tu ressembles... »
Oui, je l'ai dit, ça. Je n'ai pas
honte. Il disait quoi, le docteur ?
Si tu manges comme un lion, tu as une silhouette du lion. Si tu manges comme un hippopotame, tu as une silhouette d'anthippopotame. Et pour les jeunes femmes peut-être un petit peu sensibles, je dis « Mais vous savez, vous pouvez manger comme une gazelle, hein, vous aurez de jolies petites jambes. » Mais évidemment, le ventre, ça ne va pas s'arranger. Mais...
Tout ça pour dire que les vaches et les hippopotames qui mangent énormément d'herbes et de... Voilà.
Ils ne se nourrissent que d'herbes.
Voilà.
Ils ont malheureusement, enfin pas malheureusement, ils vivent très bien. L'hippopotame, tu sais que l'hippopotame c'est pas gentil du tout. Hein. Ça a une bonne tête comme ça, mais c'est épouvantable comme bétail. 50 morts par nuit pendant la saison par les hippopotames.
Pendant la saison de l'amour.
Exactement. Pendant la saison du rut, les hippopotames, faut pas les approcher. Mais puis ça court à une vitesse folle. Ça court
à Paris, il y en a énormément. Puis en France, on est envahi par les hippopotames. Docteur Delabo, vous savez qu'il y a
une grande... Tu sais que pendant le ramadan, on n'a pas le droit de fumer la moquette. Hein.
C'est vrai. Docteur Delabo, ces espèces de gaines et de panties qui sont soi-disant, qui aident soi-disant à perdre la culotte de cheval, ça fonctionne ou pas?
Ça sert strictement à rien.
Les trucs qui font transpirer.
Je sais, j'en vois tous les jours des dames qui viennent me voir pour la première fois. C'est pitoyable, les pauvres, elles se serrent là-dedans, elles se boudinent dans ce truc-là. Alors quand elles enlèvent ça, blablabla, ça part de partout. Alors je vais vous dire, mesdames, ne faites surtout pas ça parce que ça aggrave votre problème dans la mesure où vous détruisez vos muscles quand vous serrez comme ça. Vous serrez vos tissus adipeux, vous aggravez les choses, musclez-vous, faites du vélo, parce que si vous êtes en gros surpoids, je vous déconseille de courir, c'est mauvais pour vos articulations des genoux et des hanches, mais vous pouvez très bien faire du vélo dans l'eau, l'aquabike, c'est une très très bonne idée, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie sans abîmer les articulations. Ça c'est très bien, à condition que l'eau soit bien chaude.
Docteur Delabo, vous répondrez aux questions des auditeurs de Beurre FM dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre santé, reviens dans un instant sur Beurre FM.
Ouais, le docteur Delabo est avec vous, 01 53 48 3000 si vous voulez interroger le doc. Il y a une question là qui est arrivée hors antenne, docteur Delabo, sur les drainants. Vous savez ce qu'on donne aux gens pour qu'on puisse drainer. Quelle est l'efficacité des drainants ?
Un drainant ne sera durablement efficace que s'il s'accompagne d'un changement nutritionnel, puisque si on a un excès d'eau, c'est qu'il y a une anomalie au point de vue nutritionnel. Ça peut être lié à des eaux beaucoup trop riches en sels minéraux, ça peut être lié à une consommation d'eau anormalement élevée en dehors des repas et insuffisante au moment des repas, vous avez bien entendu. L'erreur consiste souvent à ne pas boire pendant les repas et à boire entre deux. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. L'eau est destinée à hydrater le corps et ouais. la plupart des animaux boivent au moment où ils vont manger. C'est pas par hasard. C'est pas par un goût, mais c'est simplement parce que c'est la meilleure façon de faire en sorte que le bol alimentaire soit consommé correctement par l'intestin et ensuite diffusé dans l'organisme.
Mais l'eau est moins efficace pour drainer qu'un produit qu'on y rajoute dedans?
Ah non, et l'eau en elle-même va être éliminée, elle va servir pour charrier tous les produits utiles ou inutiles et elle va permettre au rein d'éliminer tous les produits toxiques ou inutiles. Mais si elle est trop riche en sels minéraux, elle va se stocker, elle va permettre un stockage dans l'organisme. S'il n'est pas assez riche en sels minéraux, il va y avoir des carences. Donc, il faut un juste milieu d'eau bien normalement minéralisée. Une eau de table, de rivière, ou mieux, de source, est plus ou moins minéralisée.
Et la queue de cerise, c'est plus efficace que de l'eau?
Mais c'est pas plus efficace que de l'eau, c'est un rajout. C'est exactement comme, c'est comme si tu disais un antibiotique est plus efficace que de l'aspirine. C'est exactement la même chose. Tu as une angine, si tu prends de l'aspirine, ça va faire baisser ta fièvre, mais ça guérira pas la maladie. En revanche, si tu prends un antibiotique, ça va le guérir. Mais si tu prends un antibiotique et que tu as une grippe, ça servira à rien. Donc, ça ne servira à rien de prendre un drainant si tu n'en as pas besoin. Ça va être même plus gênant qu'utile, parce que tu risques d'être déshydraté, c'est pas une bonne idée. Mais prendre un drainant pour accélérer l'élimination de l'eau, oui. Mais ça ne sera utile à long terme que si, en même temps, tu corriges les erreurs qui t'ont fait stocker de l'eau.
Le drainant tout seul ne sert à rien.
Il n'est utile que dans des indications précises. C'est là, si tu veux, ce qui correspond au travail d'un médecin.
Alors Sonia est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Sonia.
Oui, bonjour. À vous.
Je vous passe le docteur de labo.
Merci. Alors j'ai quelques douleurs au niveau des genoux. Et je voulais savoir si la pratique du vélo d'appartement était recommandée ou non.
Mmh. Alors, l'ennui, c'est que j'ai pas entendu la question parce qu'on n'avait pas branché sur moi. Bonjour. Alors, je suis désolé, je suis obligé de vous faire répéter votre question, s'il vous plaît.
Alors, je répète. Oui. Alors, je dis, j'avais des douleurs aux genoux.
Oui.
Et je me posais la question, est-ce que la pratique du vélo d'appartement était recommandée ou risquait de provoquer des douleurs plus prononcées?
Ça dépend, oui, bien sûr. C'est évident, si vous n'avez pas un entraînement suffisant ou si votre vélo est mal réglé, parce que le problème des vélos d'appartement, c'est qu'on a souvent une position qui n'est pas bonne. Il faut savoir que la position qu'on a sur un vélo de course, elle est calculée pour que le corps puisse en profiter au maximum de sa puissance et en même temps ne pas abîmer ses articulations. Maintenant, il y a une autre question que je vais vous poser.
Oui.
Est-ce que vous mangez des laitages, est-ce que vous mangez du yaourt, par exemple?
Alors, j'ai réduit la consommation, ouais. mais je mange quand même quelques yaourts au lait de brebis.
D'accord. Et vous buvez du lait aussi un petit peu?
Non, pas du tout.
Non, ça c'est fini. Vous prenez pas de fromage blanc?
Du lait de soja, ça va?
Non, ça va pas du tout. Non, c'est pas une bonne idée. Le lait de soja, c'est pas du lait. Il faut pas boire ces choses-là en croyant que c'est du lait. Ça n'apporte rien. Il y a pas de calcium dans le lait de soja, ou pratiquement pas.
C'est quoi? C'est du jus?
C'est du jus. C'est un jus de légumes. Et je l'ai précisé. Je le précise d'ailleurs dans mon nouveau bouquin. C'est faites attention à tous les laits végétaux. Ce ne sont pas des laits. Ce sont des jus. Ce sont des extraits. C'est pas du lait, ça n'a rien à voir avec le lait. Le lait, c'est un aliment très particulier. Ceci posé, ne vous étonnez pas d'avoir mal un peu partout si vous mangez encore des yaourts, qu'ils soient de brebis ou autre. Un yaourt, c'est un yaourt et c'est acide. Donc, vous abîmez vos articulations avec les yaourts. Il faut absolument les arrêter si vous voulez. C'est pas difficile. Ne sont utiles pour la santé quand on a fini sa croissance que le fromage, la crème et il vaut mieux éviter le beurre si on a des articulations fragiles et remplacer le beurre par de l'huile d'olive qu'on mange sur le pain le matin, comme vous le savez si vous avez lu ce que j'ai écrit.
Alors, je voulais, concernant le lait de soja, puisque voilà, est-ce que, mais c'est pas nocif, je veux dire.
Vous ajoutez des œstrogènes dans votre alimentation, j'en vois pas l'utilité.
Et alors, les autres laits végétaux, comme le lait de riz ou d'avoine...
Mais ça sert strictement à rien. Le lait d'avoine, c'est encore pire. Mais arrêtez de prendre des laits qui ne sont pas destinés à l'être humain. Ce n'est pas du lait. Il faut que vous compreniez que disons que si vous prenez, par exemple, du lait d'amande au moment de la rupture du jeûne, d'accord, parce que c'est le jus, c'est l'extrait d'une graine, et parce que dans cette graine, vous aurez des oléagineux, vous aurez des choses intéressantes, mais ce n'est pas du lait, en fait.
Ah oui, je comprends.
Le lait d'amande, à la rigueur. Le lait de coco, à la rigueur, mais pas n'importe quand. Mais le lait d'avoine, surtout pas. Ça, c'est une vraie catastrophe. Les laits de soja, ben oui, je sais bien, je vous décoiffe un peu, là, mais j'y peux rien. Le lait de soja, c'est pareil, si vous voulez. Il y a quelques laits végétaux qu'on peut boire sans grand risque, mais les autres, il faut pas. Je vais d'ailleurs en établir la liste parce que je suis de plus en plus tracassé par ça, dans la mesure où j'ai des demandes et où les gens comme vous sont un peu affolés quand je leur dis, mais attendez, arrêtez de prendre ça, c'est pas bon.
D'accord. Alors, et pour les enfants, c'est la même chose ou
c'est
pas?
C'est exactement alors, pareil. Ce qui est bon d'accord. pour les adultes est bon pour les enfants et vice-versa. C'est exactement d'accord. pareil. Un enfant doit boire du lait jusqu'à et des produits lactés jusqu'à l'âge de 24 mois, 2 ans, et à partir de l'âge de 2 ans, le jour de son anniversaire, c'est terminé, on remplace par du fromage. Mais comme il est en croissance, et c'est le cas, la même chose pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, on va lui donner du fromage le matin et le midi. Et s'il a du mal, bien entendu, il faut donner des fromages mous, mais vous serez étonné de constater qu'un enfant, j'ai vu ma petite fille à 2 ans, manger du roquefort avec un bonheur sans mélange et se goinfrer de roquefort le matin. Ce qui faisait beaucoup rigoler mon fils, qui est médecin comme moi et nutritionniste, parce qu'il savait que j'allais faire des bombes 4 mètres. Mais il m'a dit, papa, regarde. Et il fallait la laisser faire, parce que l'instinct, le cerveau primitif des petits, il est extraordinairement plus malin que notre cerveau cognitif.
D'accord. Alors, juste pour en revenir à la pratique du vélo, donc, alors, oui. une bonne posture, mais est-ce que ça...
Bonne posture et pas de lait végétaux. Et surtout pas de yaourt ni de laitage contenant du lactose.
D'accord. Et donc c'est pas si négatif.
Non, si vous, parce qu'en principe, je vais vous dire, quand les gens sont beaucoup viennent me voir, sont en état d'obésité, ils pèsent 130 ou 140 kilos, je leur dis qu'une des rares choses qu'ils peuvent faire, c'est du vélo.
D'accord.
Bon, donc vous voyez que ça n'est pas nocif, mais vous devez avoir certainement une très mauvaise position sur votre vélo d'appartement. Votre selle est sûrement trop basse et vous levez trop les genoux. Faut regarder. Ou alors c'est l'inverse. Mais il y a une position. Si vous voulez, vos genoux soit remontent trop, pas assez. Il y a quelque chose qui fait que ça risque d'abîmer vos articulations à force.
D'accord. Bah, je vais étudier ça. D'accord. Je vous remercie bien.
Mais je vous en prie.
Merci Sonia.
Au revoir
madame. Soumeya est avec nous. Bienvenue Soumeya. Alors, Soumeya.
Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Delabo.
Bonjour Soumeya.
Bonjour, je suis déjà venue vous voir il y a à peu près 2 mois avec mon fils.
Oui.
Je sais pas si vous vous rappelez de moi.
Oui.
Voilà. Donc,
alors, comment ça va?
Bien.
Bon.
Je suis pas trop sérieuse, mais ma silhouette commence à être corrigée en douceur.
Pas sérieuse, mais honnête, parce que vous le dites.
Oui, je le dis.
C'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire.
Oui, mais je suis sur la bonne voie.
Bien.
J'ai une toute petite question.
Oui.
Je sais que vous êtes l'ennemi du lait et tous les produits dérivés.
Oui.
Par contre, en ce qui concerne le lait fermenté, est-ce qu'on peut le prendre?
Non, c'est pareil, parce que votre lait, il est fermenté, mais il contient encore des facteurs de croissance et du lactose. Non, je sais bien, vous n'êtes pas la première à m'avoir posé la question.
Parce que pendant le mois de Ramadan, le lait fermenté est le must-have.
Je sais, Philippe. Alors...
J'ai essayé de négocier, Soumeya, avec le docteur Delabo, ça fait des années. Donc,
Oui, ça fait des années qu'il me bassine avec ça et que je lui réponds, oui. Je ne céderai pas à tes appels de sirène.
Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'il est moins nocif, disons.
Il n'est pas moins nocif, il n'est pas moins nocif, il est moins nourrissant. Mais
il est moins nourrissant.
Mais le fait qu'il soit fermenté ne suffit pas, si vous voulez. Un lait fermenté, c'est très simple. Le yaourt est un lait fermenté. Le fromage blanc est fermenté. Enfin bref, ce sont les yaourts et c'est la même chose. Votre lait fermenté, il est très proche d'un yaourt. Il est simplement à température plus basse, fermenté à température plus basse que le yaourt, puisque le yaourt, c'est à 57 degrés. Votre lait fermenté, il est fait à température normale, mais le résultat, c'est exactement la même chose.
Ah, d'accord, très bien. Donc, supprimer.
Ceci posé, je rassure, je vous rassure tous et toutes, c'est pas parce que vous allez prendre du lait fermenté pendant la période du Ramadan que vous allez compromettre gravement votre santé. Ne soyons pas non plus plus méchants que nature. Je me veux très gentil, vous le savez. Mais ne faites, si ça vraiment ça vous tente de prendre du lait fermenté à un repas, parce que c'est vrai qu'il y a un rituel, eh bien faites-le. Mais surtout, ne vous inquiétez pas si vous avez pris un peu de poids, un peu de volume, un peu de ventre, un peu de fesses et un peu de culotte de cheval après. On arrangera ça.
Déjà que ça s'arrange pas vite, alors.
Voilà. Donc.
Bon, très bien.
Avez tout compris, Sameya.
Oui, oui, j'ai tout. Merci beaucoup. Hein,
je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir écouté. Et faites un bisou à votre fils pour moi.
J'y manquerai pas.
À bientôt, Sameya. Malika a une question pour le docteur de labo. Malika, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, messieurs.
Bonjour, Malika.
Oui, alors moi j'ai une question, c'est pour mon fils qui a 18 ans, c'est un féru de sport, donc pendant la période de Ramadan, il déroge pas en fait, donc je sais pas quoi lui donner le matin en fait, quand il se lève le matin parce qu'il est à jeun, donc toute la journée, et le soir, en rentrant de ses cours de la fac, il va au sport, donc ça va, la journée est longue en fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais lui donner, en fait? Parce que il est très sucré, en fait.
Ça plus il va être sucré, plus ça va aggraver les choses. Ça, il court un risque, là. Il faut surtout pas qu'il mange sucré comme ça, parce qu'il va lui arriver des aventures avant la fin du Ramadan, hein. C'est prendre un risque important, ça.
Je vois que ça, dans son faciès, qu'il y a quelque chose qui va pas, là.
Ah, forcément, ça va pas. On nourrit pas les muscles avec du sucre. Alors, s'il fait un effort musculaire où il va consommer de l'énergie musculaire, s'il met des sucres, ça va pas arranger ses affaires. En fait, il suffit qu'il respecte parfaitement la chrononutrition du Ramadan, ce qui est relativement simple, et qu'il fasse attention à manger exactement comme il faut, c'est-à-dire léger et un peu sucré, mais pas trop à la rupture du jeûne. Ensuite, très léger pour stocker de l'eau en quantité la plus grosse possible. Et puis faire son repas le plus important avant la reprise du jeûne, c'est-à-dire la chorba ou autre soupe enrichie en féculents et surtout très riche en viande, de façon à tenir le coup le plus longtemps possible dans la journée.
Et le matin? À 3 heures du matin, puisqu'on sait
c'est ça. Avant la reprise du jeûne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est pas en arrivant à la maison qu'il doit manger comme ça. C'est avant de partir travailler.
Ok, j'ai compris. Donc, en fait, compte le repas du soir ou le matin.
C'est pas ça. Enfin, ce que vous faites le soir, d'habitude, c'est vrai qu'il faut le mettre le matin. Mais le repas du soir, dans mon optique de nutritionniste, reste exactement le même pendant le Ramadan que le repas du soir toute l'année. C'est-à-dire qu'il est léger.
Je vous ai pas suivi, monsieur.
Le repas du soir. Tel que vous le concevez, il y a deux repas le soir pendant le Ramadan. Il y a le premier repas qui est un repas pour saluer la rupture du jeûne et se faire un peu plaisir. Mmh. Et puis dans l'heure qui suit, il y a le dîner, le souper, appelez ça comme vous voulez, lui va être très riche en sels minéraux, qui va amener des soupes, des potages, qui va être riche en gras polyinsaturés parce que c'est ce qui va détendre le mieux l'organisme sous forme de poisson, de préférence, ou de fruits de mer. Et après un repos de 3-4 heures, eh bien, le corps va avoir digéré suffisamment vite ses aliments légers pour pouvoir là faire son principal repas.
Mais qui est donc avant la reprise du jeûne, donc le matin.
Dans l'heure qui précède la reprise du jeûne.
Oui, mais qu'est-ce que je peux lui donner à 3 heures du matin? Des œufs, je peux lui donner des qu'est-ce que je lui donne?
Vous lui donnez des féculents, vous lui servez une chorba s'il aime ça, et c'est parfait, c'est un des meilleurs aliments qui soit. Vous pouvez lui donner une soupe au pois ou une soupe aux lentilles, ou une soupe aux haricots, si vous voulez.
Ouais.
Mais aux haricots flageolés, hein, pas une soupe aux haricots verts. Et avec ça, vous accompagnez avec toutes les viandes qu'il aime, et plus il en mangera, mieux ça vaudra.
D'accord. Et des pâtes? Des pâtes le matin, à 3 heures du matin?
Pas trop.
Pas trop non plus.
C'est pas la peine d'en donner trop. Vous allez le sucrer, c'est pas une bonne idée.
D'accord. Donc à éviter tout ce qu'il mange le matin, les brioches, les pains au chocolat.
Ah bah non, alors ça, c'est la catastrophe, ce truc-là. Là, il va terminer sur les genoux, hein, son Ramadan.
Ouais. Et en fruits, des bananes.
C'est beaucoup trop sucré. La banane, il la mangera après avoir fait son sport à la rupture du jeûne.
Ok.
À la reprise, à la rupture du jeûne. Là, il peut manger une banane. Mais pas avant la reprise du jeûne. Il va faire des hypoglycémies dans la matinée.
Ah oui, mais je vois que ça va pas. Il devient blanc, ça va pas. En plus, c'est un fouteux, il arrête pas de courir dans tous les sens.
Bon, donc, alors Malika, on est pris par le temps, mais envoyez un mail au docteur de labo,
donnez-moi les coordonnées, parce que j'attends que ça, en fait.
Alors, rapide.
contact@irens.fr
Le docteur de labo sera avec l'imam Abdelali Mamoun ce soir, donc réécoutez ce soir, rappelez ce soir.
Ça marche.
Gros bisous, Malika.
Merci beaucoup, au revoir et merci.